Bon. D'abord, une indication pratique. À l'origine, ce cours du 11 février devait être le dernier, puisque je devais commencer le 3 décembre, le 4, je ne sais plus. Mais comme le début du cours a été reculé d'une semaine, je fais une semaine supplémentaire et il y aura encore cours la semaine prochaine. C'est moins commode, c'est les vacances, mais enfin, c'est comme ça. Il y aura encore une séance la semaine prochaine, qui sera la dernière. Mais le séminaire, lui, est terminé. Cette semaine et la semaine prochaine, il n'y aura que le cours. Voilà. Et puis, la suite du cours sera sous d'autres cieux, comme souvent. Et donc, allons-y. Les sermons de Maurice de Sully, l'évêque de Paris, bâtisseur de Notre-Dame à la fin du XIIe siècle, qui sont des sermons au peuple pour l'ensemble des dimanches et des féries de l'année liturgique, et dont nous avons lu la semaine dernière quelques extraits dans leur rédaction française, qui est en principe plus proche de la prédication réelle. Ces sermons, nous l'avons vu, ne suivent ni le modèle de la prédication monastique, ça on peut s'en douter, ni non plus celui de la prédication scolastique simplifiée, si je puis dire, comme nous l'avons trouvé, par exemple, dans les Sermones vulgares velat status de Jacques de Vitry. Ils suivent le plan et la méthode la plus naturellement adaptée à leur objectif, qui est de faire connaître ou de faire comprendre aux fidèles les textes du jour, généralement l'Évangile, qui a été lu en latin et qu'ils n'ont donc pas compris. Et cet objectif est parfaitement en harmonie avec le principe de l'exégèse selon les trois ou selon les quatre sens de l'Écriture, pratiqué depuis l'époque patristique, depuis Origène, bien que ce soit un père peu orthodoxe, donc le sens littéral ou historique, le sens allégorique ou spirituel, le sens tropologique ou moral, le sens anagogique ou eschatologique. Et donc, on paraphrase l'évangile du jour, et donc en même temps, en la paraphrasant, en glissant un petit commentaire, on fait comprendre le sens littéral et on éclaire les aspects historiques, et puis ensuite on en donne le sens spirituel et surtout moral. Nous avons vu deux exemples de cette méthode qui nous ont montré que Maurice de Sully sait recourir au ton sentencieux, au ton entendu, au style simple, répétitif, riche en anaphores, tout ce qui convient à un auditoire simple, à cet auditoire simple auquel il s'adresse, mais nous avons vu aussi que sa prédication ne cède pas pour autant à la facilité. Et les deux sermons que nous avons lus, celui pour le troisième dimanche de Carême et celui pour le 19e dimanche après la Pentecôte, nous ont montré au contraire un effort réel, un effort qui prend en compte sans démagogie finalement les intérêts et le mode de vie de son auditoire, pour un effort pour fonder sur l'exégèse spirituelle et morale du texte évangélique du jour, de miracles du Christ, dont il montre que la signification l'emporte sur l'aspect surnaturel, hein, pour fonder sur eux des considérations qui ne sont pas si sommaires que cela non plus, sur le sens et la pratique de la confession, qui est, si on peut dire, la grande nouveauté de l'époque et la grande nouveauté qu'il faut faire passer auprès du peuple. Mais dans quelques cas, Maurice de Sully fait passer au second plan les textes du jour ou le texte du jour pour s'intéresser directement aux simples fidèles qui sont devant lui et qui l'écoutent. Et nous en avons vu un exemple avec le début du sermon pour la circoncision, ce sermon qui, au début de l'année, met en garde contre la coutume des étrennes et contre les autres pratiques superstitieuses qui sont destinées à s'assurer une année prospère. Et je voudrais, pour en finir avec lui, donner deux derniers exemples de sermons centrés sur l'auditoire que le prédicateur a sous les yeux et des sermons dans lesquels l'attention à la vie quotidienne des fidèles prime sur le commentaire de l'évangile du jour. Alors, premier de mes derniers exemples, si je puis dire, le sermon pour Pâques. Donc, un sermon pour la plus grande fête de l'année, le sermon pour Pâques. Et je ne veux pas vous ennuyer davantage en vous accablant sous les sermons de Maurice de Sully, et en vous citant, vous lisant indéfiniment des sermons de Maurice de Sully, quoique... je les avais lus, commentés, annotés, etc., par devoir en faisant ma thèse il y a bien longtemps. Et en les relisant, j'ai été agréablement surpris. C'est vraiment pas si mal que ça. Hein. Pas si mal que ça. C'est pas non plus qu'on lit le soir avant de s'endormir. Et je ne cite pas vraiment le sermon pour Pâques, et je me contente de le résumer d'un mot. Ce sermon, d'ailleurs, prend pour thème non pas l'évangile de la messe de Pâques, mais la citation très connue de l'évangile de Jean 6,54. Qui manducat carnem meam et bibit sanguinem meum, abet vitam aeternam et ego resuscitabo eum in novissimo die, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous savez qu'il y a cette particularité qui est littérairement importante, parce que c'est très important pour le développement de la légende du Graal, que... dans le quatrième évangile, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de récit de la scène. De la scène CE, accent grave NE, et de la scène SC, fondatrice de l'Eucharistie. À la place, il y a le repas chez Simon. Et donc, on ne trouve pas chez Jean la fameuse formule « ceci est mon corps, ceci est mon sang » qu'on trouve dans les trois évangiles synoptiques. En revanche, beaucoup plus tôt dans l'évangile, vers le début de l'évangile de Jean, le Christ, à un moment, dit cette phrase, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Et c'est important pour la légende du Graal, parce que, mais nous l'avions vu, je crois, il y a quelques années, parce que Robert de Boron, celui qui rattache la légende du Graal à la légende de Joseph d'Arimathie, suit l'évangile de Jean. Et donc, chez lui, il n'y a pas de dernière scène. Et que le repas dont il parle, c'est le repas chez Simon. Et que, du coup, le Graal est un récipient, un vaisseau dont s'est servi le Christ, mais ce n'est pas le premier calice, la première consécration, d'une certaine façon. Et il y a quelque chose de... c'est comme tout ce qu'on fait, hein. Ça a l'importance qu'on veut, mais enfin, qui peut intriguer ceux qui s'intéressent à ces questions. Donc, je reviens à mon sermon de Maurice de Sully pour Pâques, commentant cette phrase de l'évangile de Jean. Mais enfin, commentant cette phrase, non, justement, il ne commente pas cette phrase. Il la cite au début, comme ça on sait très bien de quoi il s'agit, hein, mais ensuite, tout le... Et, vous voyez, il cite cette phrase qui est une phrase eucharistique, hein, qui est une phrase sur la communion, hein, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Pourquoi ? Parce que le jour de Pâques, on communie, à une époque où on communiait très très rarement, quelquefois une fois par an, ou à Noël et à Pâques, ou à tout ça, Noël et à Pâques. Et donc, le jour de Pâques, on communie, pour beaucoup, c'est le seul jour de l'année où on communie, donc il ne commente pas un évangile portant sur la résurrection, l'évangile de Pâques, il commente une phrase essentiel portant sur l'Eucharistie, en somme. Bon. Et, encore une fois, je me trompe, je ne cesse de dire des bêtises, car il ne la commente pas, cette phrase. Il la cite, ça veut dire pour attirer l'attention des fidèles sur le fait qu'ils vont communier, et tout le sermon ensuite consiste non pas à commenter cette phrase, ni à commenter l'évangile ou quoi que ce soit, mais à inviter les fidèles à rentrer en eux-mêmes, à faire leur examen de conscience, à vérifier s'ils sont dignes ou non de communier, en ce jour justement où l'on communiait, ce qu'on sait, très rarement. Et à cette époque où, encore une fois, la confession individuelle devient obligatoire une fois par an, et donc au moins une fois par an. Donc si on ne le fait qu'une fois par an, c'est au moment de Pâques, parce que c'est le jour où il faut aller communier. Tout ça va ensemble. Donc c'est le moment où on fait son examen de conscience et où on va communier. Et le prédicateur, Maurice de Sully, s'inquiète de ne pouvoir contrôler lui-même pour chacun s'il a bien fait son examen de conscience, s'il s'est bien confessé, s'il est bien digne communier. Mais il invite ceux qui se sentent indignes de la communion à se contenter de prendre du pain béni. Autrefois, les jours de grande fête, en particulier à Pâques, à la fin de la messe, on distribuait du pain béni. Ce pain béni, c'est généralement de la brioche, et il avait été offert par une dame patronesse, donc c'était de la bonne brioche, etc. Bon. Et pourquoi distribuait-on du pain béni? Justement pour que ceux qui étaient exclus de la communion puissent avoir quelque chose. Puisqu'il fallait ceux qui ne pouvaient pas recevoir l'absolution parce qu'ils vivaient dans le péché, parce que c'était ceux qui ne s'étaient pas confessés, donc ils ne pouvaient pas communier, etc. Bon. Alors, Maurice de Sully dit, c'est pas que le pain béni soit efficace, ni même qu'ils en soient dignes, mais enfin, ça leur fera un petit quelque chose dans ce sermon. Et il ajoute que surtout, que ceux qui sont excommuniés ou interdits de communion se gardent bien sur la vie de leur âme, dit-il, de communier. Et il y avait, n'est-ce pas, une formule qu'on trouve très fréquemment à l'époque, qui est celui qui mange la chair du Christ et boit son sang sans en être digne, mange et boit sa propre condamnation. Donc, il ne mange pas, il boit son salut, il boit sa condamnation. C'est cela que dit le sermon. Et le sermon, alors ça, bon, je cite quand même, mais, il faut que j'arrive. Maintenant, j'en ai toute une série. Alors, voilà. Le sermon s'achève sur cette recommandation très concrète de ne pas chahuter en sortant de l'église et de ne pas trop manger ni trop boire en ce jour, qui est un jour de fête. Or, commandons-nous de par Dieu, à vous tous qui ici devez communier, que quand on en sera après là, quand la messe sera finie, que vous en alliez, vous veniez si saintement, que l'un ne fasse presse à l'autre, ne bouscule pas l'autre, et que vous n'arriviez pas en vous poussant l'un l'autre, ni en riant, ni en plaisantant, ni en disant de folles paroles, mais saintement et de façon qui honore Dieu et humblement, comme il convient à une chose aussi digne qui est de recevoir le corps de notre Seigneur par lequel nous devons être sauvés. Donc, au moment de la procession de communion, ensuite en revenant, que ça soit bien. Et prenez garde à ce que vos enfants et votre maisonnée, pas vos domestiques, tous ceux qui vivent autour de vous, ne mangent pas et ne boivent pas trop, ne mangent pas trop et ne boivent pas trop, pour que vous ne tombiez pas dans le péché. Et si vous voulez bien veiller à cela et vous en tenir à ce que je vous ai dit, vous aurez la vie éternelle et notre Seigneur vous ressuscitera au jour du jugement et vous mettra sans accent dans sa gloire. Quod nobis prestare dignetur per secula seculorum. Amen. Et voyez comment c'est. Alors, il s'adresse à un pub, votre mesni, donc bon, c'est votre maisonnée, les enfants, mais enfin tous les, ceux qui vivent avec vous, c'est particulièrement vos domestiques. Alors évidemment, il ne fallait pas à l'époque avoir un rang social très élevé pour avoir un ou deux domestiques, mais tout le monde. Il s'adresse à tout le monde, il s'adresse aux vrais gens, comme on dit maintenant, aux simples, aux classes moyennes. Et pour cela, vous voyez que les commandements sont simples et concrets. Si, pratiquement, bon, si vous, bon, vous veillez bien ne pas être en état de péché mortel quand vous venez vous confesser. Et puis ensuite, vous ne poussez pas, vous riez pas, vous ne faites pas des blagues en partant, et vous ne mangez pas trop, vous ne buvez pas trop. Avec ça, vous aurez la vie éternelle. Très bien. Et voilà, c'est l'essentiel. L'essentiel est dit. Mais enfin, c'est si il ne faut pas manger, pas trop boire, parce que c'est le. D'ailleurs, nous l'avons déjà vu à propos d'un autre texte. Cette manifestation de la sensualité entraîne ensuite toutes les manifestations de la sensualité et entraîne à tous les désordres. Il y a un continuum des péchés. Et c'est ce que montre, mais j'ai lu déjà le site, je raconte toujours la même chose, le conte de la vie des pères, de l'Erame du Saint-Ermite, qui agace le diable parce que le diable n'arrive pas à lui faire commettre de péché, et le diable va trouver Dieu et lui dit quand même, permets-moi de lui faire commettre un péché. Alors, il embête tellement Dieu que Dieu lui dit, puis Dieu a confiance dans l'ermite, Dieu lui dit, bon, ben, tu peux lui faire commettre un péché, mais un seul, et il aura le choix de son péché. Bon, le diable. Et alors, le diable va trouver l'ermite et dit, voilà, j'ai le droit de te faire commettre un péché. Hein, bon. Et alors, mais il faut que je te donne le choix. Alors, qu'est-ce que tu préfères coucher avec une femme, tuer un homme ou t'enivrer? Alors l'ermite dit, ben, je choisis de m'enivrer. Mais une fois qu'il est ivre, naturellement, il couche avec une femme et il tue un homme. Et donc, lorsque Maurice de Sully dit ne mangez pas trop, ne buvez pas trop, il sait ce qu'il dit. On ne finit pas toujours par tuer un homme. Alors, dernier exemple où l'attention à la vie quotidienne des fidèles prime sur le commentaire des textes du jour, le sermon pour le dimanche suivant, le sermon pour le dimanche après Pâques, celui qu'on appelait autrefois le dimanche de Quasimodo, hein, d'où le nom du personnage, parce que c'était le début de la première lecture. Enfin, pas lecture des textes scripturaires, mais le premier texte liturgique du jour. Et le dimanche Quasimodo, l'évangile du jour, c'est pourtant un texte capital, c'est le doute de Thomas, à la fin de l'évangile de Jean, toujours. Et le thème du sermon, c'est l'ultime parole du Christ, « Quia vidistin me Thoma credisti, beati qui non viderunt et crediderunt » Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui croiront. Et le sermon commence sur cette citation extrêmement importante, hein, et qui a donné lieu ensuite à des débats théologiques sans fin. Il y a eu ici même, il y a longtemps, il y a bien une dizaine d'années, une série de conférences d'un helléniste américain sur la question de savoir si, lorsque le Christ dit à Thomas « Mets ton doigt dans mon flanc », etc., si Thomas l'a fait ou non. Et ça a été un grand débat parce que les catholiques disent qu'il l'a fait, les protestants disent qu'il ne l'a pas fait. Mais l'enjeu est extrêmement important parce que si Thomas a touché, il a vérifié la vue et l'ouïe par le toucher. Il y a une preuve, une conjugaison des sens. Si, comme finalement le texte de l'Évangile le laisse supposer, il n'a pas touché, il a choisi la foi contre la preuve. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu » sans vérifier. C'est quelque chose de, d'extrêmement important. Mais dans l'iconographie, on le montre toujours en train de toucher parce que sinon, on ne peut pas identifier la scène si on ne voit pas qu'il est en train de mettre le doigt. Et d'autre part, la tradition, enfin l'orthodoxie catholique, si je puis dire, dit que il aurait, comme notre Seigneur lui a dit, mets le doigt, il n'a pas osé refuser, il ne pouvait pas désobéir. Donc il l'a fait. Enfin bref, tout ça, vous voyez, enfin, il y a une littérature extrêmement abondante, enfin des exégètes, de théologiens, là-dessus. Et le sermon de Maurice de Sully cite la phrase du Christ et après n'en dit pas un mot. Vraiment. Et. Et voilà, immédiatement après cette citation, il commence de la façon suivante. Seigneur, donc messieurs, si vous voulez, le carême est passé, Pâques est passé, la plupart d'entre vous sont confessés et ont communié, la plupart d'entre vous, c'est cet ordinateur qui met des accents partout, la plupart d'entre vous ont quitté, donc je vais plus relire, ont quitté le diable, ont renoncé au diable et à ses œuvres, et ils se sont attachés à Dieu et à son service. Or, chacun de vous peut penser qu'il n'est plus besoin de faire des sermons, d'admodester les gens en leur disant de se garder du diable et de ses embûches. Donc, bon, il se dit, il prévient, n'est-ce pas, une objection. C'est pas la peine de aujourd'hui, c'est pas la peine de faire un sermon. On est tout propre, tout neuf. Tout va bien, c'est pas la peine. Bon. Or, sachez qu'il est très nécessaire de parler. Il est plus nécessaire de parler maintenant de Dieu qu'en tout autre temps. Là. Et il est plus nécessaire qu'en tout autre temps de non, enfin, ce n'est pas réprimander, mais d'avertir, en somme, les hommes et les femmes. Car le diable a actuellement beaucoup perdu, et il est triste du dommage qu'il a subi, et il erre pour compenser sa perte et pour faire tomber les hommes dans le péché. Il voit le temps devenir plus doux, les jours devenir plus beaux, la nourriture devenir meilleure, les gens s'habiller mieux et les fous chercher à s'amuser, être attentifs aux jeux, les femmes mener leur danse, les jeunes gens se divertir. Et il lui semble que toutes ces choses sont excellentes pour son usage et pour tromper les gens. Et comme il est furieux de ce qu'il a perdu et qu'il voit le temps être convenable pour réparer la perte qu'il a subie, il erre pour trouver quelqu'un qu'il puisse dévorer, qu'il puisse tromper, qu'il puisse faire tomber dans le péché. Alors cet exhorte, comme il arrive ailleurs, d'ailleurs dans l'homilière de Maurice, cet exorde est proche d'un sermon de Richard de Saint-Victor. Je vous ai dit que Maurice de Sully suit dans ses sermons ce plan que j'appelais, il y a bien longtemps, dans ma thèse, le plan victorin. Finalement, ce n'était pas si bête que ça. Et effectivement, il s'inspire souvent de Richard de Saint-Victor, qui est un grand victorin, mais en même temps le plus pédagogue de ces grands victorins du XIIe siècle, de ces grands chanoines de l'abbaye de Saint-Victor, qui à l'époque étaient au cœur des écoles parisiennes. On est avant la fondation de l'université proprement dite. Ce que cet exorde a de remarquable, c'est d'une part la peinture concrète du diable, là, dans une perspective eschatologique, là, dans la perspective du sens anagogique, dans des quatre sens de l'écriture. Il a tout perdu par la résurrection du Christ à Pâques, puisque le Christ est descendu aux enfers et qu'il a vidé les enfers. Voilà. Avec cette ambiguïté, est-ce que ces enfers, c'était l'enfer? Est-ce qu'on y souffrait? Est-ce qu'on attendait simplement la venue du Rédempteur? C'était une discussion théologique dans laquelle Villon, d'ailleurs, intervient en disant, quant aux patriarches et aux prophètes, qui étaient comme les autres, Abraham, Moïse, enfin, ils étaient tous dans les enfers, attendre la venue du Christ. Il dit, quant aux patriarches et aux prophètes, je crois qu'ont connu grand-chose aux fesses. Ils n'ont jamais eu grand-chose aux fesses, c'est-à-dire qu'on ne les a pas brûlés beaucoup en enfer. Ils étaient seulement là à attendre l'arrivée du Rédempteur. Bon. Donc, mais bref, le diable a tout perdu avec cette descente du Christ aux enfers, le fait qu'il en est remonté avec tous ceux qu'il en a tirés, qui attendaient sa venue. Vous savez, c'est une représentation extrêmement fréquente, en particulier à la fin du Moyen-Âge. Vous voyez, c'est une miniature avec Christ triomphant, une sorte d'oriflamme blanc à croix rouge, et la foule des... comme le drapeau anglais, et la foule des sauvés qui le suivent. Bon. Donc, dans la perspective anagogique, eschatologique, il a tout perdu. Et dans la perspective tropologique, morale, il a aussi tout perdu, au moins provisoirement. Dans la perspective d'histoire du salut, il a tout perdu parce que la rédemption est arrivée, donc il a perdu cette mainmise sur les hommes qu'il avait depuis le péché d'Adam. Et dans la perspective morale de la vie de chacun, il a tout perdu, puisque au moment de Pâques, chacun s'est confessé et a communié, et donc chacun lui a échappé. Vraiment. Et il cherche donc à se refaire. Et voyez que la façon dont le texte est présenté, ou est raconté même, est proche des contes populaires. Tous ces contes qui tournent autour des ruses du diable, et la ruse du diable, et les contre-ruses. Il demande à emporter ce qui est derrière la porte, mais derrière la porte, il y a le balai de jonc, et non pas la personne qu'il croyait y être. Il demande ce qui pousse en haut du sol, et le paysan sème des raves. Il demande ce qui pousse sous le sol, et le paysan sème du blé, etc. Donc, c'est comme un conte sur les ruses du diable, et on voit le diable en chasse, essayant de trouver des proies et qui doivent essayer de lui échapper. Et c'est une façon de mettre les fidèles en garde sur un ton familier et sur un ton qui leur est familier contre les tentations propres au printemps et qui sont présentées, elles aussi, non seulement de façon très concrète, mais de façon poétique. De façon très concrète, le temps s'adoucit, il fait moins froid, il fait beau, on se nourrit mieux et du coup, on a envie de sortir et on a envie de se faire beau. Les gens s'habillent mieux. L'hiver, on met des capes, des pèlerines, des pelisses. On ne cherche pas à être beau, mais à se protéger du froid. Mais dès que le printemps vient, on cherche à être beau. Et il y avait ces coutumes que en avril, en mai, pour le 1er mai, on s'habillait de vert gai. Et pensez, enfin évidemment, c'est beaucoup plus tardif que Maurice de Sully, à la représentation du mois de mai dans les Très Riseurs du Duc de Berry, où on voit comme un cortège de seigneurs et de dames, et ils sont tous habillés de vert. Le roi donnait des vêtements verts à son entourage, etc. Donc, on se fait beau et on s'amuse. On dansait généralement. On dansait au printemps, pensez à ses poèmes, la ballade de la reine d'avril, qui est moitié en occident, moitié en français, et dont mes lointains prédécesseurs, à la fin du XIXe siècle, où mes lointains prédécesseurs voyaient la source de la poésie romane, all'entrada del tancla reia, per gioia recommensa reia, per lo cielo si rita reia, vol la regina mostrar che le sia amorosa, alla via gelos, la sanos, ballar entre nos, à l'entrée du temps clair, et pour recommencer la joie, et pour irriter le jaloux, la reine veut montrer qu'elle est si amoureuse. Refrain, hors d'ici, jaloux, laissez-nous danser entre nous, et la reine n'est pas une vraie reine, mais la reine d'avril, la plus belle, celle qu'on avait élue, la reine de la fête, et alors le jaloux, il vient pour surveiller la reine avrileuse, mais elle ne se soucie pas de lui. Elle se soucie plus d'un jeune homme qui saura bien caresser la dame savoureuse à la via Tchernos, etc. Enfin bon, c'est une chanson charmante, peut-être pas aussi ancienne que le croyait Gaston Paris, mais qui se chantait à l'époque. Alors, elle a aussi cette particularité qu'elle n'est pas, enfin, bon, qu'elle n'est pas seule à avoir, d'ailleurs, c'est qu'elle donne l'impression d'être en Languedoc, mais c'est pas de la langue, c'est de la fausse Languedoc. C'est du français avec des terminaisons de Languedoc, comme du français avec des mots qui se terminent en ing pour faire anglais. C'est, l'entrada, non. Ada est une terminaison de Languedoc, mais non, c'est pas de la langue. Bon, voilà. Et donc, ça, ce qui a fait, évidemment, couler, là encore, beaucoup d'encre. Et, on dansait... alors, bon, nous avons vu d'autres années que toutes les chansons d'amour commencent par une évocation du printemps, et on dansait très souvent au printemps en plein air. Dans la version, il y a un rondeau à danser dont on connaît de très nombreuses versions et qui semble avoir été le rondeau de base, si je puis dire, pour danser, le rondeau de la belle Aélis. Mince leva la bienfaite Aélis, la bienfaite Aélis s'est levée de bon matin, beau se paraît, plus belle se vêtit, pour caroler en mai, pour danser au mois de mai. Et mais souvent, on dit que dans des variantes, elle va caroler dans les prés. C'est l'ajout de sous l'olive, c'est l'ajout sous l'olivier, fontaine et sourcerie, la source y sourd douce, pucelle carolée, jeune fille dansée. Je mènerai ma très douce amie à Val-la-Prée, avant les prés, etc. Donc, Maurice de Sully sait très bien à quoi il fait allusion, et tout le monde sait très bien. Quand on dit ça, tout le monde a ses chansons en tête. C'est les femmes menaient les caroles, les jeunes gens se distraire. C'est cela, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Mais, en le disant, il le dit en vers. Regardez, un quatrain, si voué le temps échalfé, les jours embellir, les viandes amender, la gent plus belle vêtir, c'est un quatrain à rime croisée. C'est un quatrain qui pourrait être tiré d'une chanson. C'est la contre-chanson, la chanson de mise en garde contre la chanson à danser. Et nous verrons d'autres exemples plus frappants de telles rencontres et d'une telle utilisation, l'utilisation par les sermons de chansons d'amour ou de chansons à danser. Et une sorte de détournement de texte ou de détournement de chansons familières à l'auditoire et qu'on récupère pour la bonne cause. Et c'est un petit peu ce que fait Maurice de Sully ici, sauf que c'est lui qui invente son petit quatrain, et il l'invente naturellement parce que le vers était beaucoup plus naturel qu'aujourd'hui et que le vers était une forme d'éloquence, c'est mal dit, mais allait avec l'éloquence. Nous avons vu à d'autres occasions souvent que la poésie, le mot poésie désigne la poésie latine métrique. Et que, pendant longtemps, le Moyen-Âge classe la poésie rythmique, donc la poésie qui compte sur, repose sur le compte des syllabes et éventuellement les rimes, comme notre poésie, place la poésie rythmique avec la prose dans la même catégorie, par opposition à la poésie métrique. Donc, c'est de la part de Maurice de Sully ou de l'auteur de la version française, une sorte d'effort d'éloquence poétique, si ces deux mots ne hurlent pas de se voir accouplés, comme disait mon professeur de philosophie dans ma jeunesse, viennent ensemble, naturellement, sont une sorte de clausule, en fait. Et puis, j'avais attiré votre attention dessus il y a un instant, on note aussi l'observation que les fidèles en ont assez d'entendre prêcher. Et cette observation, vous voyez, vient après les allusions à la joyeuse et bruyante pagaille qui accompagne la communion et la sortie de la messe de Pâques, dans le sermon pour le dimanche précédent. Et cela laisse deviner, c'est ce que nous disait Jacques Berlioz au séminaire la semaine dernière, cela laisse deviner des fidèles turbulents et peut-être peu dociles. Et, je disais, je crois, à Jacques Berlioz que dans un autre sermon, enfin, je ne retrouve pas, il me suffirait de chercher, mais j'avoue que... Bon, un autre sermon, un prédicateur se plaint que lorsqu'il prêche trop longuement, on l'interrompt en lui disant « Prud'homme, laissez-nous aller avant nos affaires. Nous avons autre chose à faire. » Vraiment. Et ce qui montre d'ailleurs qu'on dit « Ah, le Moyen-Âge, notre époque, enfin, où on était si conventionnel, si respectueux, des choses religieuses, la chape de plomb, etc. » Là, vous me direz, aujourd'hui, il n'y a plus personne à la messe, mais les rares qui y sont ne se permettraient pas de dire « Bon, ben, ça va, ça commence à être un peu long. » Quelque envie qu'ils en aient. Bon, là, ça ne les gênait pas. Et alors, donc, bon, voilà quelques exemples, enfin, un petit panorama de la façon dont est fait l'homiliaire, le sermonnaire de Maurice de Sully, de la façon dont il conçoit la prédication, l'enseignement que contient cette prédication, la façon de le transmettre, le ton et aussi les efforts pour s'adresser directement à ce public, des simples fidèles qui est devant lui. Non pas seulement comme dans des sermones ad status, de se dire tel public, tel auditoire a besoin qu'on dise telle chose, donc j'ajuste mon tir théologique et moral en fonction de lui. Bien sûr, il se le dit, mais d'une certaine façon, il l'enrobe, il le dissimule et il agit vraiment, vraiment un sermon de terrain. Ce que ne sont pas les sermones ad status. Bon. Alors, nous allons maintenant quitter Maurice de Sully pour voir, nous quitterons bientôt, mais enfin bon, ce cours se termine. L'an prochain, pour la dernière année, ce sera assez pour les sermons, du moins. Enfin bon, en tout cas pas toute l'année. Bon. Mais nous allons quitter Maurice de Sully pour voir l'exemple d'une méthode exactement inverse à la sienne. Qu'il pratique une exégèse de la péricope évangélique du jour adaptée aux simples, ou bien qu'il leur adresse directement sur un ton simple des recommandations immédiates, concrètes, nous avons vu que Maurice de Sully est toujours très soucieux du progrès spirituel des fidèles. Et le sermon dont je vais dire quelques mots maintenant est un sermon au simple dont la visée est, si on peut dire, plus intéressée et qui utilise jusqu'à la démagogie toutes les ficelles d'une rhétorique capable de faire effet sur les simples gens. Non, voir un prédicateur peut être, c'est même un euphémisme, moins soucieux de spiritualité, mais qui est un homme de communication, c'est un vendeur de voitures d'occasion. Enfin, je reviens, voilà. Et alors, moi, de même, vous voyez, je remets les pieds dans les traces de ma jeunesse. Donc, je parlais de plan victorin pour Maurice de Sully. Et ce sermon, j'appelle depuis toujours, hein, enfin, non, depuis toujours, depuis, c'est donc cette thèse, la prédication en langue romane avant 1300. Mais vous savez, cette thèse date du début des années 70. Hein, je l'ai soutenue en 75, publiée en 76, après une petite réédition. 80, donc, ça, c'est pas une nouveauté absolue. Mais enfin, bon. Et je l'appelais ce sermon le sermon d'Amiens. Et il est contenu dans le manuscrit Paris, Bibliothèque nationale de France, Picardie 158. Je le dis, vous me direz, ça n'a aucun intérêt, mais ce n'est pas un manuscrit du fond français ou du fond latin, la cote n'est pas français, FR, tant ou lat, tant. Hein, c'est Picardie 158. Et nous allons voir pourquoi. Et c'est un. Ce que c'est que ce fond Picardie. C'est un long sermon très particulier, qui est conservé de façon particulière et dont je m'étais beaucoup occupé à l'époque dans ma thèse, mais enfin, il mérite vraiment qu'on s'en occupe je ne dirai pas, je ne vais pas répéter ce que j'avais dit dans ma thèse. Enfin, là, pour une fois, je peux avoir la tête haute. Hein, d'ailleurs, même pour Maurice de Sully, je ne vais pas répéter. Non, c'est vrai en plus. Hein, donc ce sermon était vraiment intéressant, m'avait beaucoup intéressé, et à l'époque, j'en avais fait une copie intégrale que je me promettais toujours d'éditer sans jamais le faire. D'abord, au début, je ne l'avais pas fait parce que l'excellent philologue, bien meilleur que moi, qui était Jacques Chaurand, en avait à l'époque formé le projet. Et il m'avait d'ailleurs généreusement communiqué pour ma thèse des éléments qu'il avait rassemblé, que j'ai utilisé en lui en faisant hommage, naturellement. Bon. Mais il est mort sans avoir réalisé ce projet, j'ai fini par être devancé, je m'en réjouis parce que je n'aurais jamais fait, en fait, par Stephen Murray, U2RAY, qui est un professeur à l'Université Columbia, New York. Et Stephen Murray n'est pas un philologue, et je dois dire que son édition s'en ressent un petit peu. Il n'est pas un philologue, et c'est un historien de l'art, spécialiste de la cathédrale d'Amiens. On va voir pourquoi. Alors, je suis méchant de dire ça, parce que, en plus, alors, effectivement, l'édition Murray, de temps en temps, c'est pas exactement ça, et il y a une traduction anglaise, de temps en temps, pas exactement ça non plus. Mais enfin, c'est peu de choses. Et du coup, j'ai voulu réutiliser pour ce cours ma propre transcription. Et j'ai pu retrouver. Elle doit être dans un carton à la cave. Enfin bon, je n'ai pas retrouvé. Ça m'ennuie un petit peu parce que quand même, j'aimerais bien retrouver. Ça n'a rien de dramatique. D'ailleurs, je m'apercevrais sûrement en la relisant que j'avais fait des fautes de copie ou qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, il vaut mieux que je garde avec le souvenir, que je reste avec le souvenir glorieux de ce travail plutôt que de voir combien il était mauvais. Murray est un historien de l'art et c'est un grand spécialiste, c'est actuellement le grand spécialiste de la cathédrale d'Amiens. Or, ce sermon a été prononcé pour recueillir des fonds destinés à l'achèvement de cette cathédrale. C'était une mission, en somme, et assortie d'une quête pour l'œuvre de la cathédrale. Et d'où l'intérêt que lui a porté Stephen Murray, qu'il étudie dans cette perspective en cherchant de façon extrêmement intéressante à mettre le contenu du sermon en relation avec l'iconographie de la cathédrale. Par exemple, un des exemplats du sermon le plus longuement développé, c'est la fameuse histoire du clerc Théophile. Or, il y a une représentation du clerc Théophile, etc. Bon. Et d'ailleurs, le titre de son livre est « A Gothic Sam, Making a Contract with the Mother of God, Saint Mary of Amiens ». Donc, un sermon gothique, un contrat avec la Mère de Dieu, Sainte Marie d'Amiens. Ça a paru, il y a un certain temps, sur les presses de l'Université de Californie en 2004. Et vous voyez, le sermon est dit gothique, comme la cathédrale, et le titre précise qu'il s'agit non de la Vierge en général, si je puis dire, mais de Sainte Marie d'Amiens, dont la statue est représentée d'ailleurs sur la jaquette du livre. Bref, ce sermon est conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France sous la cote 18 Picardie 158. Le fonds Picardie rassemble une collection considérable et assez hétéroclite de notes et de documents qui ont été accumulés au XIXe siècle par un bénédictin qui s'appelait Don Grenier. Et dans le volume 158 de ce fonds, donc il avait rassemblé beaucoup de documents, à un moment sont collés au milieu de grandes pages modernes et de pages de l'écriture de Don Grenier, sont collés 8 feuillets de parchemin qui ne semble pas avoir jamais été relié et dont l'écriture est de la fin du XIIIe siècle. Et ils ont été numérotés sans doute par Don Grenier à la suite des feuillets du volume moderne où ils sont insérés, feuillets 131-138, comme s'ils en faisaient partie. Et Don Grenier a aussi transcrit le texte, et même deux fois. Une fois dans ce volume 138 et une autre fois dans le volume 14. Énormément. Mais il l'a fait deux fois, mais les deux fois assez mal, je dois dire. Les transcriptions sont là vraiment déficientes. Et en 1876, le texte, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai trouvé, le texte a été publié une première fois par Crampon, le chanoine Crampon, dans les mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, sous un titre, nous allons le voir, un petit peu erroné, « Un sermon prêché dans la cathédrale d'Amiens vers 1260 ». Et il y a probablement deux petites erreurs. Et c'est un petit manuscrit, 21 cm sur 16, couvert d'une petite écriture serrée sur deux colonnes. Je le revois plus petit, mais enfin j'avais noté ça, ça doit être vrai. Couvert d'une petite écriture serrée sur deux colonnes, à raison de 34 lignes par colonne. Alors bon, ce n'est pas un brouillon. Hein. Il n'y a pas. D'abord, bon, il est copié sur. Sur deux colonnes, ce qui se fait moins pour un brouillon. Il n'y a pas de rature. Les citations latines sont écrites en lettres plus grosses et plus épaisses. Et il y a 4 rubriques, donc comme des titres, comme le nom l'indique, à l'encre rouge, dans le cours du développement, qui délimitent des parties, mais des parties qui ne correspondent pas au plan réel du sermon, mais ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, ce n'est pas un brouillon, mais le manuscrit donne l'impression d'être un manuscrit d'usage plus que de conservation. Pas un brouillon, mais un texte qui a servi au prédicateur. Il n'est pas sûr, on pourrait le vérifier. Moi, j'en étais pas très commode parce qu'il a été collé, mais enfin, un codicologue le dirait immédiatement. Il m'a semblé qu'il n'avait pas été relié, qu'il avait circulé comme ça. Et le texte est incomplet. Alors là encore, c'est de ma faute, j'aurais dû aller le revoir ces jours-ci, ce que je n'ai pas fait. J'ai quand même fait un petit peu de progrès depuis le matin. Il y a peut-être des choses que j'aurais vues, que je n'avais pas vues à l'époque. Bon, enfin, passons. De toute façon, pour nous, ça ne change pas énormément. Le texte est incomplet, mais il ne paraît pas en manquer beaucoup. Ce sermon n'a pas été prêché dans la cathédrale d'Amiens, comme le suggère le titre de Crampon, et comme le pensait Albert Lecoy de la Marche, qui le mentionne dans le premier grand ouvrage consacré à la prédication médiévale, sans lequel je n'aurais pas pu faire le mien, « La chaire française au Moyen-Âge, spécialement au XIIIe siècle, Paris 1868 ». Il n'a pas été prêché dans la cathédrale d'Amiens, mais pour la cathédrale d'Amiens. Et là, c'est pas un point d'intérêt capital pour aujourd'hui, mais si tout de même, n'est-ce pas ? Je crois que j'ai montré qu'il a été prêché dans une autre église du diocèse, ou peut-être et même probablement successivement dans plusieurs églises du diocèse, peut-être dans les églises du diocèse, dans le cadre d'une mission itinérante destinée à prêcher les bonnes gens et à les ramener à Dieu, mais aussi à recueillir des fonds pour l'œuvre de la cathédrale. Le prédicateur, dont certains indices m'avait conduit à penser qu'il était peut-être dominicain, c'est certainement un prédicateur appartenant aux ordres mendiants. Il a une façon de prêcher qui ressemble plus à la façon de prêcher qu'on attribue traditionnellement aux franciscains, plus familière, plus populaire, avec de grosses ficelles, etc. Est-ce qu'il est vrai de la prédication des capucins ou des franciscains à la fin du Moyen-Âge ? Et encore, dans les missions, il y a encore des... là, vous savez que je suis grand amateur d'Henri Pourrat, il y a des contes recueillis par Henri Pourrat qui plaisante sur ce type de prédication franciscaine dans les missions, comme il y en avait tant dans les campagnes au XIXe siècle. Le franciscain qui raconte l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, et il dit et les lions avaient des yeux comme des roues de charrette, et ils avaient une queue comme d'ici au village voisin. Et alors, ce franciscain était accompagné d'un frère qui était chargé de tirer sur sa corde quand il exagérait trop. Alors, il tire sur la corde. Alors, le franciscain dit, il avait des yeux comme des assiettes, puis une queue comme jusqu'à la maison qui est là-bas. Alors, l'autre continue à tirer, il a des yeux, etc. Et à la fin, il dit, si vous continuez à tirer, les lions n'auront plus de queue du tout. Donc c'était un sujet de plaisanterie. Et c'est au XIIIe siècle exactement ce type de prédication, ce sermon. C'est ce qui fait son intérêt. Certains indices m'avaient fait penser que c'était plutôt un dominicain. Bref, il va de paroisse en paroisse avec les reliques ou des reliques de la cathédrale, conservée à la cathédrale, et il prêche pour obtenir des dons en promettant au don de l'évêque des indulgences en échange. Et divers éléments m'avaient aussi conduit à penser, en particulier à partir des éléments que m'avait fournis Jacques Chauran, que cette tournée devait avoir eu lieu après 1276, non pas 1260, mais plutôt à la fin des années 70 du XIIIe siècle, peut-être aux alentours de 1280, à la fin des années 70 du XIIIe siècle, et parce qu'il cite le nombre de... on verra qu'il aime les chiffres, on verra pourquoi. Le nombre d'abbayes ou de monastères qu'il y a dans le diocèse d'Amiens au moment où il parle, le nombre de prêtres qu'il y a dans tout le diocèse à cette époque. Or, ce sont des éléments sur lesquels nous sommes renseignés. L'administration ecclésiastique était bien faite. Donc, nous pouvons savoir à quelle époque ou à partir de quelle époque il y avait tant d'abbayes, tant de prêtres dans le diocèse d'Amiens. Et ça correspond à cela. À cette date, et c'est pourquoi la cathédrale était en principe achevée. Et c'est probablement pourquoi le chanoine Crampon, c'était le chanoine, disait que le sermon est de 1260, à une époque où la cathédrale était en train de s'achever. Mais une cathédrale n'était jamais achevée. Et l'œuvre de la cathédrale pouvait de toute façon avoir besoin d'argent. Et la datation, il y a un élément qui, en principe, aurait dû permettre de préciser la datation, c'est la mention que fait le prédicateur du pénitencier de l'évêque d'Amiens, qui est un dominicain nommé Vedoire de Denrichier. Alors, et il aime bien comme ça citer les chiffres des noms, enfin il fait l'important. Alors le pénitencier Vedoire de Denrichier. Et il dit que c'est de la bouche de Vedoire de Denrichier qu'il a entendu l'exemplum sur lequel s'achève la partie du sermon qui nous est parvenue, l'exemplum du bourgeois honnête. Malheureusement, ce personnage ne semble pas nous être connu d'autre part. On n'arrive pas à mettre la main sur Vedoire de Denrichier, ce qui est peut-être... peut-être qu'il n'y a pas de Vedoire de Denrichier. Il fait tellement le malin, n'est-ce pas, qu'il est bien capable d'avoir... où il n'était pas pénitencier de l'évêque d'Amiens, il était ailleurs, mais comme il se réclame de l'évêque d'Amiens, celui qu'il cite, bon. Mais ce ne sont pas ces questions historiques qui nous occupent ici, mais la nature et le ton de ce sermon, nature et ton du sermon, mais tout de même que nous comprendrons à la lumière du contexte que je viens de rappeler, mais cela, c'est ce que nous verrons dans notre dernière séance. Je vous remercie.